Les Américains attendent ça depuis 2017, de voir triompher une joueuse américaine. La dernière en date, c'était Sloane Stephens. Il faut remonter à 2014 pour voir Serena Williams s'imposer à l'US Open. À l'époque, elle était sur une série de 3 victoires consécutives. Il va falloir que Coco Gauff ait les épaules solides à 19 ans pour justement résister à toute cette pression, d'autant plus qu'en finale, elle sera opposée à la nouvelle numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Pas évident de dégager une favorite, c'est vrai que le pronostic est assez compliqué. On va essayer d'y voir plus clair ensemble, c'est parti, jingle. C'est vraiment l'année de la consécration pour Aryna Sabalenka qui a décroché son premier titre en majeur à l'Open d'Australie en début d'année contre Rybakina. Et en plus, ce lundi, elle décrochera le Graal d'être la nouvelle numéro 1 mondiale qui va ainsi déloger Iga Świątek. Et elle aura au moins 1071 points d'avance sur la Polonaise au classement ce lundi. Et à la race, l'écart se creuse d'autant plus avec au moins 1305 points d'avance sur Iga Świątek. Et son année 2023 est exceptionnelle, elle a commencé très très fort. Mais derrière, c'est quand même 50 victoires pour 10 défaites avec 3 titres Adélaïde, l'Open d'Australie ainsi que Madrid. 6 victoires pour 3 défaites contre des membres du top 10, Jabeur à Wimbledon, Świątek à Stuttgart et Rybakina à Indian Wells. Son parcours, plutôt facile sur le papier, Zanevska, Buraj, Burel, Kazakhtina, Zeng ainsi que Keys. En demi-finale, elle a joué seulement 2 top 20, donc Keys qui était 17ème mondial et Kazakhtina 14ème mondial. Elle a concédé un seul set, c'était contre l'américaine, où elle le perd assez sèchement, 6-0. Elle a passé en tout 8h41 sur les courts. Donc comme je te le disais, si on retrace un petit peu son parcours jusqu'en demi-finale, elle a pas du tout été inquiétée, elle s'est montrée vraiment impériale en tant que patronne, sachant qu'elle n'a pas concédé le moindre set. Et c'est vraiment Madison Keys qui lui a joué des mauvais tours, sachant que la Biélorusse s'impose 0-6, 7-6, 7-6. En avant-match, on voyait vraiment Sabalenka prendre le dessus sur son adversaire avec deux joueuses très puissantes. Et en plus, Sabalenka qui était un petit peu plus apte de défendre et notamment qui avait de meilleures qualités à la relance. Et pourtant, on a eu un match totalement différent parce que Keys a mené 6-0, 4-2. Elle a servi pour le match à 6-0, 5-4. Et dans le troisième set, elle va mener 4-2 également. On l'a vu vraiment, l'américaine impressionnante, durant un set et demi où elle a asphyxié son adversaire avec sa puissance, son coup droit également à la relance, où elle envoyait vraiment des sacoches des deux côtés, c'était assez impressionnant. Sabalenka n'avait pas la solution, sachant que dans le premier set, c'est 12 coups gagnants pour 5 fautes directes du côté de l'américaine, avec 67% des points gagnés à la relance. C'est tout simplement impressionnant, encore plus quand t'as une serveuse de la qualité de Sabalenka en face. Et forcément, le moment où elle va servir pour le match, elle va commencer à se tendre et remettre un petit peu son adversaire en jeu. C'est exactement ce que va faire Sabalenka avec sa grinta, son fighting spirit, qui va réussir à inverser la tendance avec une Madison Keys qui va commettre beaucoup plus de déchets, sachant que sur le set 2 et 3, c'est 20 coups gagnants pour 30 fautes directes. On va avoir une Sabalenka qui va essayer d'un peu plus varier pour perturber le rythme de son adversaire et justement la pousser à faire la faute, avec la Biélorusse qui a pu compter sur son service et notamment dans les tie-breaks qui s'est montré impérial. Et si on prend un petit peu de recul par rapport à cette année de Aryna Sabalenka, elle l'a dit à l'Open d'Australie, vraiment la correction principale, c'est son service, où elle s'est entourée de spécialistes dans la biomécanique pour essayer de déconstruire un petit peu son geste et de l'améliorer, parce qu'elle avait cette grosse difficulté à sécuriser ses secondes balles où elle faisait énormément de doubles fautes. Et là, on sent tous les progrès qu'elle a pu opérer sur cette saison 2023, sachant qu'elle tourne à 8,8% d'ace cette année contre 6,2% en 2022. Elle a 61,4% de première balle avec une réussite de 73,2%. Et en 2022, c'était seulement 67,8%. Et surtout, elle a pris 7% de points gagnés sur sa seconde balle entre 2022 et 2023, où actuellement, elle est à 49% de points gagnés. On peut noter également cette régularité dans les grands événements, sachant que depuis un an, donc depuis l'US Open 2022, c'est une demi, un titre, une demi et une finale au pire à l'US Open en 2023. Donc c'est tout simplement monstrueux. C'est rare de voir des joueuses briller autant sur toutes les surfaces, sur tous les grands chelems, d'atteindre ce pic de forme à chaque grand événement. Il faut remonter à 2016 quand Serena Williams se qualifiait pour au moins toutes les demi-finales des majeurs. Là, Sabalenka a fait de même, donc c'est assez colossal cette performance qu'elle a réussi à faire. D'autant plus qu'elle restait sur 2 demi-finales consécutives à l'US Open, donc c'est un grand chelem qui lui réussit merveilleusement bien. C'est 23 victoires pour 2 défaites en majeur cette saison, 13 victoires, 10 défaites en finale, donc on voit que c'est pas évident pour elle d'aller chercher le titre avec ce ratio qui est presque de 50-50. Et si on prend les statistiques de cette quinzaine, c'est 62% de première balle, 77% de réussite derrière, 55% sur seconde balle, 55% de break converti, et elle a été breakée 12 fois. Avant de parler de Coco Gauff, est-ce que tu connais le nouveau concept où tu investis sur des talents auxquels tu crois? C'est exactement la même mécanique que la bourse, ça s'appelle Royalties et c'est justement le sponsor de cette vidéo. En bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions et derrière, en fonction des performances de ces dernières, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Donc là, on va s'intéresser au tennis, mais tous les sports sont représentés. Donc tu as différents talents, que ça soit Caroline Garcia, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Noskova, Hugo Gaston, Corentin Moutet et bien d'autres. Je te laisserai aller voir ça sur leur site internet directement. Tu vas acheter un ROI, ce qui est l'équivalent d'une action. Donc en moyenne, la première transaction d'un ROI, c'est 2 euros, mais ça peut être plus élevé en fonction justement du taux de trade de ces talents, s'ils sont beaucoup demandés ou non. Et derrière, donc tu investis dans ce talent auquel tu crois, bah en fonction de ses performances sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui te calcule tout ça. Et chaque mois, tu vas améliorer tes rendements par rapport à ton investissement initial. Donc c'est un concept assez novateur qui change de la bourse, je trouve, pour faire fructifier ton argent, parce que tu vas être embarqué dans une aventure, l'aventure de ton joueur favori, et derrière, bah, en fonction de ses résultats, en plus d'être content pour lui parce qu'il aura performé, tu vas avoir des retombées économiques sur ton investissement. Donc ça, c'est vraiment top. Encore une fois, c'est une activité responsable. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Je te laisse un lien d'affiliation dans les commentaires. Donc tu t'inscris, tu fais ta première transaction en investissant sur un talent, et derrière, tu vas avoir accès à un bonus, un reward qui et de différentes natures. Soit ça donne accès à un autre talent, tu pourras choisir aléatoirement, soit à une somme d'argent, soit à différents cadeaux comme des AirPods. Donc un grand merci à Royalties de soutenir la chaîne. À 19 ans, Coco Gauff jouera sa seconde finale en majeur après sa désillusion de Roland Garros 2022 où elle s'était inclinée assez sèchement contre Iga Świątek. Et ce qui est assez surprenant avec la joueuse américaine, c'est qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on la connaît, parce qu'elle s'est fait connaître quand elle avait 15 ans, elle avait atteint les 8e de finale à Wimbledon, et depuis s'en est passé des choses, elle apprend à vitesse grand V, si bien qu'au classement ce lundi, au pire, elle sera 4e, 3e si elle gagne, et au pire 5e à la race et 3e là encore si elle gagne. Donc vraiment une ascension assez fulgurante pour la toute jeune joueuse américaine qui a encore des lacunes dans son tennis, tout n'est pas parfait, mais qui a encore le temps de progresser. C'est ça qui est assez impressionnant. En 2023, c'est 44 victoires pour 13 défaites avec 3 titres, Auckland, Washington et Cincinnati. Depuis Wimbledon, c'est 17 victoires pour une seule défaite contre Pegula à Montréal, avec notamment une série de 11 victoires consécutives, sachant qu'elle a triomphé à Cincinnati contre Mourova. 5 victoires, 4 défaites contre des membres du top 10. En majeur, c'est un petit peu moins régulier que son adversaire de la finale, sachant que c'est 8e à l'Open d'Australie, quart à Roland, premier tour à Wimbledon, et là donc finale au pire contre Sabalenka à l'US Open. L'an dernier, elle avait fait un quart de finale où elle s'était inclinée contre Caro Garcia. Au niveau de son parcours, Sigmund, Andreeva, Mertens, Wozniacki, Ostapenko ainsi que Mourova, elle a lâché 3 sets, un contre Sigmund, un contre Mertens et un contre Wozniacki. Elle a passé 11h et 24 minutes sur les courts. C'est vrai qu'elle a lâché plusieurs sets pour se hisser en finale, notamment contre des joueuses assez défensives, mais d'une certaine façon, elle n'a jamais été en danger. On l'a jamais senti proche de la défaite dans ses différents matchs, même si à chaque fois, bon, c'est souvent des lacunes côté coup droit qui ressortent. On sent que dès qu'elle est un petit peu friable dans ce compartiment du jeu-là, que ses adversaires en profitent, bah, elle va commettre énormément de fautes directes et bah, justement, elle va lâcher un petit peu quelques points avant de se remobiliser, parce que oui, elle est portée par tout ce pays à New York, chez elle, où vraiment ils espèrent la voir triompher. Contre Mourova, on s'attendait à une grande demi-finale et finalement on a été assez déçus par rapport au résultat. Ça fait 6-4, 7-5. L'américaine va très rapidement mener 5-1 avant un petit sursaut de la Tchèque. Et ensuite, il va y avoir une interruption en début de second set où un groupe d'activistes pour le climat s'est manifesté dans les tribunes. Ça va durer à peu près une heure. À la reprise, bah, on a Coco Gauff qui va mener 5-3 et Mourova qui va sauver une balle de match, qui va se rebeller un petit peu comme ça avait été le cas en finale à Roland-Garros. On sait qu'elle est très dangereuse dans les money time comme ça, quand elle est proche de la défaite, que c'est là qu'elle va sortir son meilleur niveau de jeu. Et bah, elle va finalement perdre le 7-7-5 après avoir sauvé plusieurs balles de match. On voit vraiment que Mourova, elle a eu du mal dans ce match à terminer le point. Ça avait été le cas à Cincinnati où ses amortis, ses slices n'avaient pas fait mal à l'américaine, même si elle est émoussée par rapport à son combat en demi-finale contre Sabalenka. Mais là, on l'a vu exceller que vers la fin, sous pression. Donc tout le mérite revient à la joueuse tchèque. Mais elle aurait dû mieux commencer la partie pour davantage inquiéter l'américaine avec voilà ce coup droit de Coco Gauff qui a fait un petit peu la pluie et le beau temps dans ce match, comme dans tous les matchs tout au long de cette quinzaine. Après, on a quand même une joueuse qui est assez complète côté Coco Gauff, qui est très athlétique, qui défend très bien, qui a une excellente couverture de terrain. Côté revers, c'est très très bon. Par contre, c'est son coup droit, son point faible, même si depuis quelques semaines, bah, elle a Brad Gilbert dans son équipe. On a vu les progrès à Washington sur une semaine où elle n'a pas concédé le moindre set. Elle a été capable vraiment de très bien jouer côté coup droit, mais ça reste encore son talon d'Achille, hein. On va pas se le cacher. Dès que des joueuses arrivent à insister sur ce coup, bah, c'est compliqué pour elle et elle peut paniquer, elle peut cafouiller, même s'il n'y a pas eu de grande inquiétude, sachant qu'à chaque fois elle n'a pas été en danger, mais elle peut lâcher un set et contre une Sabalenka qui est très en confiance. Il faudra vraiment avoir un très bon jour côté coup droit pour justement faire la différence dans ce compartiment du jeu là. Au niveau des statistiques sur cette quinzaine, c'est 56% de première balle, 70% de réussite derrière, 53% sur seconde balle, 57% de break converti. Elle a été breakée 15 fois et elle a un très bon ratio en finale, sachant que c'est 5 victoires pour une défaite, et sa seule défaite c'était contre Swiatek à Roland Garros. Au niveau des confrontations, il y a 3 à 2 pour Coco Gauff. Par contre, le dernier match en date, c'était à Indian Wells cette année, où ça a été une petite correction, sachant que Sabalenka s'est imposée 6-4, 6-0. Au fait, nous c'est Games & Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smasher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on a une couverture complète de cette fin de tournoi à l'US Open. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Si le contenu te plaît, tu mets un pouce bleu et ensuite t'actives la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. Au niveau des clés tactiques, le premier point à surveiller, ça va être l'expérience. Ça sera la deuxième finale pour les deux joueuses en majeur. Par contre, Sabalenka, elle en a disputé une et elle l'a remportée, ce qui n'a pas été le cas de Gauff, qui s'était incliné contre Swiatek à Roland-Garros 2022. Donc forcément, la Biélorusse, elle saura mieux appréhender cet événement, sachant qu'elle en a disputé un en début de saison, qui a été un match compliqué, mais à la fin, elle a eu la victoire. Donc là, à voir ce que ça va donner, Sabalenka qui arrive un peu plus en gestionnaire, en favorite, en patronne sur le court, là où Coco Gauff, ça sera encore un peu la découverte, d'autant plus que leur aura énormément de pression de gagner à domicile, encore plus après cette série de victoires assez incroyable qu'elle a en ce moment. Quand on regarde un petit peu les matchs entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka, on voit que les victoires de l'américaine passent par une excellente prestation au service avec plus de 60% de première balle. Elle avait eu du mal contre la puissance de la Biélorusse à Indian Wells où justement Sabalenka avait étouffé totalement son adversaire qui avait mis 73% de première balle, 9 points perdus sur son service, et on l'avait senti un peu paniquer Coco Gauff. Elle savait pas vraiment quoi faire. Sabalenka avait fait une excellente performance. Par contre, si on prend leur match précédent au Canada l'an dernier, où il y a eu énormément de doubles fautes, en tout 33, on avait quand même une Coco Gauff qui avait beaucoup mieux servi, qui était beaucoup plus sereine, avec une Sabalenka qui était encore un petit peu trop brouillon à cette époque là. Forcément, Sabalenka, sa victoire va passer par une excellente performance au service, passer un maximum de première balle, sécuriser ses secondes balles, ne pas crouler sous la pression et faire des doubles fautes qui pourraient relancer totalement son adversaire. Elle va devoir orienter le jeu sur le coup droit de Coco Gauff. On le sait, Coco Gauff, elle a progressé côté coup droit, mais elle a encore des failles. Quand t'as une balle qui lui arrive très très vite en puissance, elle a du mal, notamment avec sa préparation, ou c'est compliqué pour elle et elle va faire la faute. Et pareil, si on arrive à varier un petit peu côté coup droit, où justement ça va être à elle de créer son propre rythme, là elle ne sait pas forcément faire, elle cafouille et ça fait encore la faute. Donc Sabalenka vraiment va devoir insister sur cette diagonale et aussi axer le jeu par rapport à son service sur le coup droit de son adversaire, parce qu'à la relance c'est pareil, elle aura exactement les mêmes problèmes. De l'autre côté, on a une Coco Gauff qui va devoir essayer d'être assez stable dans ce compartiment de jeu là. On sait que c'est compliqué ses performances à l'US Open pour vraiment trouver de la rigueur dans son côté coup droit, où des fois il y a des hauts et des bas, comme ça a été le cas contre Wozniacki et Mertens notamment. Par contre, elle peut faire le jeu avec son revers, où elle est très à l'aise dans ce compartiment de jeu là, également dans ses qualités défensives. Elle a une très bonne compétence athlétique, Coco Gauff, et justement ça peut frustrer un petit peu Sabalenka, où la balle va revenir systématiquement et pousser à la faute son adversaire. On sait que côté coup droit, elle a tendance à faire ses petites balles un petit peu bombées. À voir comment va les gérer Sabalenka, si elle arrive à les agresser ou si au contraire, ça la perturbe un petit peu, ça casse un peu son rythme et ça la pousse à faire des fautes. On va pas y échapper, le pronostic, franchement, d'habitude j'aime bien me mouiller, faire un pronostic un petit peu osé. Là c'est compliqué pour moi par rapport à toute cette analyse. On a d'un côté Sabalenka, nouvelle numéro 1 mondiale, qui a eu ce match compliqué contre Madison Keys qui va peut-être la relancer, d'autant plus qu'elle peut faire coup double en plus d'avoir cette première place mondiale, un autre titre en majeur. Elle a l'expérience, elle sait gérer ce genre d'événement, elle a énormément progressé au service, d'autant plus qu'elle a l'avantage sur cette saison 2023 par rapport à l'américaine. Mais de l'autre, on a une Coco Gauff en pleine confiance, qui reste sur 11 victoires de suite, qui a gagné à Washington, à Cincinnati, qui a progressé côté coup droit, même si elle a encore ses défaillances, qui va être portée par ce public. Donc j'ai du mal à voir vraiment une favorite. C'est vraiment du 50-50 ou du 51-49. J'ai envie d'aller sur Coco Gauff en 3-7 par rapport au fait que c'est son moment ou jamais, son rêve américain vraiment de prendre cette relève à 19 ans, qu'elle va pas passer à côté de cet événement parce qu'elle a eu des matchs compliqué tout au long de la quinzaine, mais elle est là, elle a su capitaliser sur sa confiance à Cincinnati, et je me dis que peut-être elle va réussir à frustrer un petit peu Sabalenka, qui sur le papier sera peut-être légèrement favorite, qui aura aussi sa pression à elle, même si elle a su la gérer à l'Open d'Australie, elle connaîtra vraiment cette sensation de jouer une finale de Grand Chelem, en plus de la remporter. Je pense que c'est le moment pour Coco, donc je vais aller sur une victoire de l'américaine en 3-7. Et toi, qu'en penses-tu? Je suis curieux d'avoir ton avis, qu'on échange en commentaire pour savoir si tu vois plus Coco Gauff ou Aryna Sabalenka s'imposer. En tout cas, nous on se retrouve ce samedi soir pour un live pour débattre des différentes finales et se projeter un petit peu sur cette fin de tournoi. Et si tu n'as pas vu nos deux analyses pour les vidéos preview des demi-finales chez les hommes, je t'invite à aller la voir, à commencer par celle entre Ben Shelton et Novak Djokovic. Et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.